RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président indonésien a souligné l'évacuation des victimes était la première priorité. BNPB demande une assistance de l'ONU pour accéder aux données sur les dégâts causés par le séisme. BPPT affirme l'importance de la technologie de l'anticipation de tsunami. La Corée du Sud fournira une aide humanitaire d'un million de dollars américains. L'Europe est prête à aider l'Indonésie dans le séisme de Sulawesi. Le ministre Muhajir Effendi invite la communauté à socialiser Pancasila comme idéologie de travail. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a souligné ses personnels à prioriser l'évacuation comme première étape de la manipulation du séisme et du tsunami qui a frappé le Sulawesi central. Cela a été dit par le président aux journalistes à l'aéroport Mutiara Sis Al Jufri, Palu, après avoir observé un certain nombre de points affectés par des catastrophes tout au long de dimanche, comme indiqué à la page du secrétariat du président. Lié à ce processus d'évacuation, le président a dit qu'il y avait plusieurs villages qui ne peuvent pas encore être évacués en raison des limites des équipements lourds. Toutefois, le ministre des Travaux publics a mobilisé des équipements lourds de Mamuju, Gorontalo, Palu et Poso, se diriger vers l'évacuation dans les endroits où il y a des victimes. Cependant, pour aider à distribuer de l'eau et des aliments, le président a déclaré que le gouvernement préparerait des avions spéciaux. Cela tient compte de l'état des aéroports qui n'ont pas été en mesure de fonctionner normalement. Le président a souligné que le gouvernement était déterminé à améliorer les installations publiques touchées par le séisme et le tsunami. Le processus de reconstruction et de réhabilitation sera effectué après la phase d'évacuation terminée. L'Agence de gestion des catastrophes nationales indonésiennes, ou BNPB, a déclaré avoir des difficultés à cartographier et à collecter les impacts détaillés des dégâts dus au séisme qui a secoué le centre de Sulawesi vendredi. Par conséquent, BNPB demande l'aide à l'ONU d'accéder aux images satellitaires et peut obtenir des données. Le chef des données des informations et des relations publiques de BNPB, M. Sutopo Purwonugroho, lors d'une conférence de presse à Jakarta samedi, a déclaré que BNPB et l'Institut national de l'aéronautique et de l'espace, ou LAPAN, a ratifié et demandé aux organismes des Nations Unies ONU Spider pour accéder facilement aux images satellites à haute résolution. Les données d'IMA satellite seront utilisées comme matériel d'analyse pour connaître l'impact des dégâts dans la zone touchée par le séisme et tsunami, parce que la route terrestre ne peut pas encore être utilisée et les communications ont été coupées. Le chef de BNPB, le ministre de l'Armée nationale indonésienne, rapporteront la situation et les conditions actuelles de Sulawesi centrale au président et le chef de l'État le déterminera. Est-il ouvert à recevoir une assistance internationale? Cela dépend du président. L'Agence pour l'évaluation et l'application de la technologie ou BPPT a souligné l'importance de la technologie qui permet de réduire l'impact du tremblement de terre et le tsunami, parce que jusqu'à présent, les efforts d'anticipation sont encore très minimes et il n'est pas devenu le centre d'attention. L'agent de la technologie de développement des ressources naturelles de BPPT, Hammam Riza, cité par republica.co.id dimanche, a déclaré que BPPT avait diverses technologies qui étaient prêtes à être utilisées pour anticiper le séisme et tsunami. Après cela, BPPT continuait à mener une étude sur le tremblement de terre au Centre de technologie des infrastructures portuaires et de dynamique côtière appartenant de BPPT à Yogyakarta et Multi-Hazard Early Warning System. Par conséquent, dès que possible, a souligné Hammam, il doit y avoir une forte synergie entre les parties prenantes pour utiliser la technologie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement sud-coréen fournira l'aide humanitaire $1 million pour la gestion après le séisme et tsunami dans la région de Sulawesi centrale. Basé sur le communiqué de presse de l'ambassade sud-coréenne à Jakarta reçu par Antara dimanche, on souhaite que l'aide humanitaire puisse alléger le fardeau de la communauté. Le plan de distribution de l'aide humanitaire a été annoncé quelques jours après que l'ambassade de Corée du Sud a publié une lettre du président Moon Jae-in au président Joko Widodo pour exprimer ses condoléances et son sympathie pour le séisme et tsunami qui ont frappé le centre de Sulawesi. Le responsable de l'information et de la communication de BNPB, M. Sutopo Purwonugroho, lors d'une conférence de presse à Jakarta dimanche, ont rapporté qu'il y avait un sud-coréen à Palu au cours de l'incident et jusqu'à présent son état est inconnu. L'Union européenne offre son plein soutien à l'Indonésie après le séisme et tsunami qui a eu lieu à Palu et ses environs vendredi. Même l'Union européenne a activé le service de cartographie par satellite d'urgence Copernicus pour aider les autorités. La déclaration a été transmise par le haut représentant de l'Union européenne, vice-président de la Commission européenne Federica Mogherini et le commissaire pour l'aide humanitaire et la gestion des crises, Christos Stylianides, par la communiqué de presse cité par Antara à Jakarta récemment. L'Union européenne a affirmé son soutien au peuple indonésien et continuera de surveiller la situation pour mobiliser davantage l'aide. Dans cette déclaration, l'Union européenne a également exprimé ses condoléances aux familles de centaines de victimes décédées ou blessées. Le ministre indonésien de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir Effendi, a déclaré que le peuple indonésien devrait être reconnaissant d'avoir Pancasila aux cinq principes. Pancasila est le fondement de l'État, une vision de la vie, l'idéologie nationale et l'unification de vie de la nation et de l'État. L'Agence nationale de nouvelles de radio a rapporté que le ministre Muhajir Effendi, dans un discours dans le cadre de la commémoration de la journée Kesaktian Pancasila, le 1er octobre à Jakarta dimanche, a déclaré « Avec Pancasila, l'État indonésien a le fondement moral et l'orientation nationale claire et forte, visionnaire ainsi que la base de travail qui a utilisé la plateforme de travail. La base de travail utilisée pour la base du refuge est l'objectif de l'espoir qui sont importants pour la survie et la gloire de la nation. Il a ajouté que Pancasila, comme le système de valeurs, le système de connaissances et de comportements, sont résumés en un seul, formant un environnement social qui permet de déterminer la nature du caractère individuel et collectif. Ainsi, il est nécessaire de socialiser Pancasila comme idéologie de travail. Muhajir Effendi espère qu'avec Pancasila comme idéologie du travail, la nation indonésienne est en mesure d'obtenir des réalisations glorieuses. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le chagrin pour Palu et Donggala et le chagrin pour tous ». Le séisme tectonique a secoué Donggala, Sulawesi Central, et déclenché un tsunami qui a frappé Palu et Donggala. Un séisme de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter a eu lieu dans Donggala, Sulawesi Central, le vendredi 28 septembre 2018. Le séisme qui a suivi le tsunami a fait plus de 800 morts et des centaines blessés. Le gouvernement central est immédiatement intervenu pour aider le gouvernement régional à Palu et Donggala dans le centre de Sulawesi afin de faire face aux victimes touchées par séisme et tsunami. Cela est nécessaire parce que le séisme a provoqué la destruction de l'infrastructure significative et entravé le processus de distribution de l'aide. Le président Joko Widodo a surveillé directement la situation actuelle à plusieurs endroits touchés par catastrophe, y compris les postes d'évacuation et les hôpitaux. Le séisme et le tsunami qui ont lieu à Palu et Donggala attirent l'attention du monde. Tsunami à Palu et Donggala viennent étonnamment. Alors que d'autres ont rapporté que le nombre de morts était estimé à au moins 1000 personnes, près de 800 victimes ont été trouvées à Palu, donc compris dans la région de Donggala et d'autres régions qui sont difficiles d'accès. Parmi eux, il y a 71 ressortissants étrangers qui sont les victimes du séisme et du tsunami dans la ville de Palu et dans la région de Donggala, le centre de Sulawesi. Certains étrangers sont encore inconnus. Le chef de données des informations et des relations publiques de l'Agence nationale pour la gestion des catastrophes, au BNPB, M. Sutopo Purwonugroho a déclaré que la plupart des étrangers qui se trouvaient dans le centre de Sulawesi lorsque le séisme à Palu et Donggala avaient rapporté dans un état sûr. Certains touristes étrangers ont également été évacués à Jakarta. Le chagrin Palu et Donggala, non seulement le chagrin des gens de la province de Sulawesi Central, mais aussi le chagrin de la nation indonésienne et le monde. L'expression de sympathie et de chagrin pour la catastrophe qui ont frappé Palu et Donggala, y compris les offres d'assistance humanitaire de divers milieux et des pays amis, ont commencé à arriver. L'Union européenne, comme par exemple, distribuera une aide d'urgence d'un montant de 1,5 million d'euros ou 25,97 milliards de roupies pour les victimes du séisme et du tsunami à Palu et Donggala. En outre, les États-Unis et la Chine ont également offert leur aide au gouvernement indonésien. Le tremblement de terre et tsunami à Palu et Donggala devrait renforcer la fraternité. La nation indonésienne devrait être de plus en plus unie et s'aider mutuellement en difficulté, parce que le chagrin de Palu et Donggala est un chagrin mutuel. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine a été fondée. La République populaire de Chine est un pays situé en Asie Est qui a sa capitale à Beijing. Ce pays a la plus grande population du monde et une superficie de 9,69 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le quatrième plus grand pays du monde. Le pays a été fondé le 1er octobre 1949 après la fin de la guerre civile chinoise. Mao Zedong a proclamé la République populaire de Chine et à partir de ce moment-là, la Chine a été dirigée par un parti unique, le Parti communiste chinois. Bien que souvent considéré comme un pays communiste, l'essentiel de l'économie de la République a été privatisé depuis les années 1980. Le 1er octobre 1965, le mouvement du 1er octobre. Le 1er octobre 1965, sept généraux ont été enlevés et tués, l'un d'entre eux étant le commandant de l'armée, Ahmad Yani. Le même matin, les personnes responsables des massacres ont occupé la station centrale de Radio République Indonésia et ont déclaré que leur action visait à protéger le président Sukarno de conspirateurs qui menaient le coup. Ils ont appelé leur mouvement comme le mouvement du 30 septembre ou abrégé J30S. Le mouvement du 30 septembre est tombé aussi vite qu'il est apparu. Avec la mort d'Ahmad Yani, le major général Suharto a pris commandement de l'armée le matin du 1er octobre et a lancé une contre-attaque dans la soirée. Toutes les troupes de J30S ont finalement été capturées ou enfouies. Le mouvement du 30 septembre a disparu avant que ses membres et le leader du mouvement n'expliquaient pas leur objectif. Suharto a appelé le Parti communiste indonésien le cerveau de l'incident et a procédé à l'extermination des personnes associées au Parti communiste indonésien. 1,5 million de personnes ont été arrêtées et accusées d'être impliquées dans le mouvement. Le 1er octobre 2005, l'incident de bombardement de Bali. L'attentat de Bali en 2005 était une série d'attentats à la bombe survenus le 1er octobre 2005 à Bali. Trois attentats à la bombe ont eu lieu à Kuta et deux à Jimbaran. Au moins 23 personnes ont été tuées et 196 autres blessées. Cet attentat suicide a eu un impact significatif sur le tourisme à Bali, étant donné que le 12 octobre 2002, un attentat similaire a tué 202 personnes. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serge Tor, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « Le gouvernement indonésien contrôle officiellement Freeport ». Le gouvernement indonésien via PT Inalum contrôle officiellement 51% des actions de PT Freeport Indonesia ou PTFI. Cet accord a été signé par PT Inalum en tant que société mère d'une entreprise appartenant à l'État ou BUMN et Freeport McMoRan Insurance à Jakarta jeudi. La signature d'accord de vente et d'achat est une étape avancée de l'accord préliminaire du 7 juillet 2008. À cette époque, il était convenu que la valeur des actions de désinvestissement de Freeport Indonesia serait de 3,85 milliards de dollars américains. Le montant est de 3,85 milliards de dollars américains, soit environ 56 trillions de rupiah. En détail, 3,5 milliards de dollars américains pour acquérir une participation d'intérêt de 40% détenu par Rio Tinto est 350 millions de dollars américains pour acquérir 9,3% des actions détenues par Indo Copper Investment. La signature a été faite par le président-directeur de Nalum, Budi J. Sadikin, et le président-directeur général de Freeport McMoRan, Richard Atkerson, témoigné par le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Ignatius Jonan, le ministre des Entreprises appartenant à l'État, Sri Mulyani, Indrawati, ainsi. Le nombre d'actions de PTFI détenues par Inalum augmentera de 9,36% à 51,23%. Le gouvernement régional de Papouasie recevra 10% de 100% des actions de PTFI. Ignatius Jonan expliquait, avec la signature de cet accord, le gouvernement délivrera une licence d'exploitation minière spéciale avec une période d'exploitation maximale de 2 fois 10 ans jusqu'en 2041. Ensuite, l'obligation de PTFI de construire une fonderie de cuivre d'une capacité de 2 à 2,6 millions de tonnes par an continuera d'être surveillée et évaluée son développement de sorte qu'elle devrait être achevée en moins de 5 ans. Par ailleurs, la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a admis que la cession de parts entre PT Freeport Indonesia et le gouvernement indonésien était compliquée et nécessitait un très long processus.
Saya tahu bahwa proses ini tidak mudah, banyak sekali detail negosiasi yang saya.
Je sais que ce processus n'est pas facile. Il y a beaucoup de détails de négociation que je dois admettre sont un processus tout aussi compliqué. Cependant, avec les bonnes intentions du gouvernement indonésien et avec les conseils de Mme Rini à PT Inalum et avec le leadership de Richard Atkerson, nous avons finalement été en mesure de prendre en charge de 51% des actions signées aujourd'hui sous forme d'un contrat d'achat de vente. Nous continuons également à terminer et sommes en phase finale. Encore une fois, grâce à un processus qui n'est pas facile. Sri Mulyani expliquait que la cession des parts de PT Freeport Indonesia était cette fois un engagement d'Indonésie à lutter pour le meilleur, tant en termes de revenus de l'État que de transformation en aval par la construction de fonderies et de gestion. Il a également affirmé que le gouvernement indonésien respectait pleinement les droits des investisseurs qui viennent en Indonésie en négociant qui produit une décision qui profite à toutes les parties concernées. Sri Mulyani espère également que PT Freeport Indonesia mènera des activités minières dans le futur en continuant à prendre en compte les aspects environnementaux. Il a également exprimé sa gratitude au président-directeur général de Freeport McMoRan, Richard Atkerson, qui a bien négocié avec le gouvernement indonésien jusqu'à présent. Serge Ritor, c'était Mon Indonésie pour ce soir. Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est en mettant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir, bienvenue dans une nouvelle édition du magazine culturel de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Pour ce soir, nous vous présentons la plage de Prohamba Indah à Tegal, en province de Java Central. Donc, restez avec nous, La Voix d'Indonésie. Vous pouvez écouter nos émissions par les écoutes ou par le site web. Chers auditeurs, la plage est l'un des objets touristiques qui est souvent visité. La beauté de la plage est propre enchantement pour les touristes et de nombreuses activités peuvent être faites à la plage. Généralement, la plage a la vase de sable blanc, mais l'Indonésie a également une plage avec une vase de sable noir et doux. Tundel est la plage de Purwohamba Indah située à Tegal dans le centre de Java. La plage avec du sable noir est doux et confortable pour se coucher et profiter dans l'océan à vous. La plupart des plages de Tegal ont des vagues plus amicales. Les vagues de la plage de Purwohamba Indah ne sont pas assez violentes par rapport aux vagues qui font directement face à l'océan Indien. Pour cette raison, vous ne devez pas vous soucier de libérer vos enfants pour jouer à la plage. La plage de Purwohamba Indah a un océan bleu avec du sable noir doux. Sa vague est également assez calme. Vous serez en sécurité pour nager à la plage. En outre, vous pouvez nager à la piscine qui est en standard international. Cette piscine a été construite par la direction de la plage de Purwohamba Indah. Il est également complété par un parc aquatique, un toboggan et une fontaine. L'emplacement stratégique de la plage de Purwohamba Indah permet d'accéder facilement. Cette plage, qui s'appelle également la plage de Purin, est située sur la route de Tegal Pemalang de kilomètres de 12. Du terminal à Tegal, on peut atteindre la plage en utilisant des véhicules automobiles d'environ 20 à 30 minutes. En semaine, le ticket d'entrée de la plage est 3 000 rupiah pour l'adulte et 2 500 rupiah pour l'enfant. Et pour les vacances, c'est 3 500 rupiah pour les adultes et 3 000 rupiah pour les enfants. Cet objet touristique est complété par une place de parking, un café, une salle de réunion, une mosquée, une salle de repos et un hébergement. Serviteur et auditrice, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre La plage de Purwohamba Indah à Tegal en province de Java Central. Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre programme ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Apa yang biasa kamu lakukan » ou en langue française, « Que fais-tu habituellement ?» Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Apa yang biasa kamu lakukan » ou en langue française, « Que fais-tu habituellement ?» Tony et la famille de Joko voyagent actuellement sur la plage Parangtritis. Ils discutaient au bord de la plage.
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
Serviteur, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir « Apa yang biasa kamu lakukan ?» ou en langue française « Que fais-tu habituellement ?» Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Biasanya, biasanya, en français, habituellement. di pantai, en français, sur la plage. Apa yang biasa kamu lakukan ketika di pantai? Apa yang biasa kamu lakukan ketika di pantai? En français, que fais-tu habituellement sur la plage? Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. En français, bain de soleil, nager, jouer volleyball, et surfer. Kalau kamu, en français, êtes-vous? Makan bersama, bermain pasir, dan berenang. Makan bersama, bermain pasir, dan berenang. En français, manger ensemble, jouer au sable et nager. Pada akhir minggu, en français, à la fin de semaine. Ketika libur, en français, en vacances. Ketika di taman, en français, quand dans le parc. Mengobrol, mengobrol, en français, bavarder. Teman, teman, en français, ami. Dans le dialogue, Dinda a demandé apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? En français, que fais-tu habituellement sur la plage? L'expression apa yang biasanya kamu lakukan? Apa yang biasanya kamu lakukan? En français, que fais-tu habituellement? Est utilisé pour trouver des activités qui sont généralement effectuées par une personne lorsqu'elle se trouve dans un lieu ou dans une certaine période de temps. Exemple. Apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu? Apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu? En français, que fais-tu habituellement à la fin de la semaine? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur? En français, que fais-tu habituellement quand tu es en vacances? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman? En français, que fais-tu habituellement dans le parc? Voici les exemples de la réponse aux questions avec les phrases complètes. Pada akhir minggu, biasanya aku berenang dan bermain voli. Pada akhir minggu, biasanya aku berenang dan bermain voli. En français, le weekend, je d'habitude nage et joue au volleyball. Ketika libur, biasanya saya berenang dan berselancar. Ketika libur, biasanya saya berenang dan berselancar. En français, je nage et surf habituellement pendant les vacances. Ketika di taman, biasanya aku makan bersama teman dan mengobrol. Ketika di taman, biasanya aku makan bersama teman dan mengobrol. En français, quand je suis dans le parc, d'habitude, je mange avec des amis et discute. Chers auditeurs, avant de terminer à parler de l'Indonésie aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
Après avoir écouté la conversation et en pour titre, apa yang biasanya kamu lakukan? Ou en langue française, que fais-tu habituellement? Nous vous donnerons une pratique qui est bien sur lié au mot existant après. L'exercice est cette fois-ci pour décrire la maladie que vous avez souffert en mentionnant nom de la maladie, quand as-tu éprouvé la douleur, depuis combien de temps es-tu malade, combien on se sent, où cherchez-vous un traitement, combien de fois par jour devez-vous prendre des médicaments? Exemple, Nama saya Danu, saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum obat 3 kali sehari. Sekzami, c'est la brique apprendre l'indonésien pour ce soir, que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. En pratique, envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voe@voenews.id. Il y aura un cadeau sous la forme d'un colis attrayant pour le gagnant. Le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Et cette fois, nous allons présenter des chansons de Keroncong chantées par Tuti Trisedia. Écoutez maintenant la première chanson intitulée Bunga Anggrek, chantée par Tuti Trisedia. Bonne écoute. Thank you. C'était la première chanson de Keroncong chantée par Tuti Trisedia de la voix de l'Indonésie à Jakarta. Cette chanson raconte des souvenirs heureux quand quelqu'un écoutait ensemble une chanson avec un être cher. La chanson est maintenant un souvenir qui est souvent chanté quand il manque son amoureux. Tuti Trisedia est née à Makassar, Sulawesi du Sud, le 8 octobre 1956. Elle a passé son adolescence à Bandung, Java de l'Ouest. Après cela, elle a continué ses études à ASMI, Jakarta, et ensuite à la faculté de droit UPN Veteran, Jakarta. En 1975, elle a été élue en échange d'étudiants dans le cadre du programme d'échange entre les jeunes du Canada et d'Indonésie. Dans le monde du chant, son nom a commencé à être connu depuis qu'elle a obtenu le premier titre de radio et télévision Star en 1986 pour la catégorie Keroncong. Elle a également remporté le premier champion de compétition de Keroncong Antar Kotama TNI Marine et la deuxième place en 1983. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Tuti Trisedia intitulées La Patrie. Bonne écoute.
Thank you.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter la rubrique musicale chantée par Tuti Trisedia. Elle n'a jamais appris à chanter des chansons de Kroncong, mais elle écoute toujours la chanson de Waljina et de Sundari Sukocho. En 1988, Tuti était chanteuse au Palais d'État qui a chanté devant les invités de l'État. Elle a également été animateur, la chanteuse et coordinateur du programme de Gebiar Kroncong, une émission qui est diffusée sur la chaîne de télévision nationale TVRI. Avec le groupe d'art indonésien, il s'est rendu plusieurs fois dans divers pays. Tuti Trisedia a également fondé Warung Kroncong Gaul, qui est devenu un endroit où les amoureux des chansons de Kroncong se sont réunis, ainsi qu'un conteneur pour les jeunes chanteurs de Kroncong pour essayer de chanter. Ce studio a donné naissance de plusieurs jeunes chanteurs de Kroncong, comme par exemple Sriyono, un homme avec une voix d'or, et au cours de sa carrière dans le monde de la musique, Tuti a sorti plus de 15 albums de Kroncong. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, écoutons maintenant les deux dernières chansons intitulées Kicir Kicir et Ne jamais dire la haine. Tous les deux sont chantés par Tuti Trisedia. Merci à tous et au revoir. Jangan
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.